Chapitre 18. La nuit parut cruellement longue à Claire. Rentrée dans son appartement, elle comprit toute la gravité de la situation et fut épouvantée. Certes, elle avait agi dans la plénitude de son droit. Bravée, menacée, outragée chez elle par une ennemie sans pitié, elle s'était révoltée et l'avait chassée. Mais sa querelle particulière était devenue générale. Son mari avait été contraint de prendre fait et cause pour elle, et elle le voyait maintenant lancé contre le duc. Elle avait devant les yeux l'énigmatique sourire de Bligny quand il avait dit « C'est compris ». Ce sourire la faisait frissonner. Elle savait quel dangereux adversaire était Bligny. S'il fallait en venir à un combat, Philippe n'était-il pas sous le coup d'un effroyable danger ? Elle avait vu, à la fin de la soirée, Octave et le baron s'aboucher avec la braie des moulinets. Elle avait interrogé le baron et son frère. Ils avaient répondu évasivement, l'air contraint, affirmant que les pourparlers aboutiraient à un arrangement. Claire chercha quel arrangement pourrait intervenir entre ces deux hommes qui se haïssaient. Le duc avait nettement posé les termes de la question. Ou des excuses, ou la responsabilité, c'est-à-dire une réparation. La jeune femme ne s'arrêta pas une minute à l'idée que son mari pût faire des excuses. C'était donc un duel. Claire était d'une race vaillante dont les femmes n'avaient jamais pâli au choc des armes. Son aïeule, une Bligny, avait couru les chemins creux de la Vendée avec les bandes de Stofflet, faisant, dans l'occasion, le coup de carabine contre les Bleus. Son père, le marquis de Beaulieu, âgé de 16 ans, s'était enfermé à la pénitière et avait été trouvé, au bout de 3 jours, sous les décombres de la ferme, le bras fracassé par une balle. Elle avait de qui tenir. Mais si elle n'eut pas craint la mort pour elle-même, elle eut peur pour Philippe. La superstition s'en mêla. Elle se figura cette union entre le maître de forge et elle, marquée de noir par le destin. Elle eut le pressentiment que si son mari se battait, il serait tué. Et des images affreuses passèrent devant ses yeux. Elle vit sur le gazon taché de sang, Philippe étendu inanimé et le duc debout, le pistolet encore fumant au poing, qui riait de son mauvais rire. Pourquoi le pistolet? Pourquoi cette arme si dangereuse? Elle se disait vainement que peut-être on se battrait à l'épée. Toujours, elle voyait les deux hommes le pistolet à la main. Elle entendait la double détonation, une légère fumée bleue monter dans l'air, et Philippe, frappé à mort, s'abattait lourdement dans l'herbe. Elle voulut chasser ce cauchemar qui la poursuivait tout éveillée, et elle se mit à la fenêtre. L'air était doux, la nuit, d'une transparence admirable, étincelait d'étoiles. Et dans les arbres du parc, des lanternes vénitiennes achevaient de s'éteindre, ranimées un instant par un souffle de vent, et brillant dans l'obscurité comme des points rouges. Elle vit avec horreur, dans ses points rouges, des taches de sang. Épouvantée, elle referma sa fenêtre, tirant ses rideaux pour ne plus apercevoir ses clartés sinistres. Elle se mit à marcher autour de sa chambre, pensive, absorbée, roulant dans son esprit la lugubre crainte de la mort de Philippe. Elle se surprit à parler tout haut, disant « Je porte malheur à ceux qui m'approchent !» Le son de sa voix l'effraya dans le silence. Elle s'allongea sur sa chaise longue et essaya de lire. Mais des sons de cloche lui tintèrent aux oreilles comme un glas funéraire. Elle voulut alors aller jusque chez Philippe pour savoir ce qu'il faisait. Elle traversa le petit salon sur la pointe du pied. Elle vint jusqu'à la porte de la chambre de son mari. Tout était silencieux et obscur, ni bruit ni lumière. Elle crut qu'il dormait, et cette idée la rassura un peu. Elle revint à sa chambre et passa le reste de la nuit à demi éveillée dans une agitation que rien ne pouvait calmer. Philippe n'était point dans sa chambre et il ne dormait pas. Il s'était enfermé dans son cabinet, situé au rez-de-chaussée, au-dessous de la chambre de Claire. Il n'ignorait pas que la rencontre qui se préparait entre le duc et lui serait sérieuse. Les pourparlers s'étaient engagés le soir même entre les 4 témoins, et l'affaire étant d'une simplicité extrême dans sa gravité, l'accord avait été rapidement conclu. Malgré les supplications éplorées de Moulinet, qui voulait à tout prix éviter le combat, rendez-vous avait été pris pour 8 heures du matin. On devait se trouver à la limite des bois de Pont-Aven et de la Varenne, à égale distance des deux habitations, à ce même rond-point des étangs qui, quelques jours auparavant, résonnait des joyeuses exclamations et des rires des chasseurs faisant fête au lunch somptueusement préparé. L'arme choisie par le duc était le pistolet. La distance, 30 pas, le feu à volonté. Philippe accepta ces conditions sans répugnance. Quoiqu'ayant peu pratiqué le pistolet, il était au fusil de première force. Et, sûr de son coup d'œil, il pensait, avec une joie farouche, que s'il risquait de recevoir la mort, il était à peu près certain de la donner. Entre ces deux hommes, doués d'un courage égal et d'un sang-froid à toute épreuve, il était impossible de choisir d'avance le vainqueur. Mais il n'était pas douteux que l'un des deux ne fût condamné. Seul, en face de lui-même, n'ayant peut-être plus que quelques heures à vivre, Philippe se laissa aller à une profonde méditation. Il fit loyalement l'examen de sa conduite. Une pensée l'obsédait. Il craignait d'avoir été trop dur pour Claire. À cette heure suprême, il ressentait une pitié profonde pour cette âme troublée qui s'était lavée dans ses propres larmes. Il la voyait maintenant pleine de lui. La femme altière qu'il avait si rudement repoussée s'était fondue en une femme humble, tendre et dévouée. L'épreuve si dure qu'il lui avait fait subir était complète. Et il avait le droit de croire que, vivant, Claire serait toute à sa tendresse, mort, toute à son souvenir. C'était là le but qui s'était proposé. Il l'avait atteint, point dépassé. Il se sentit plus calme. Du fond de sa conscience, il ne regretta pas d'avoir martelé sans trêve ce caractère de bronze pour le façonner à sa guise. Il vit dans le résultat obtenu une garantie de bonheur pour Claire si la chance lui était favorable et s'il revenait sauf. Livrée à elle-même, dans le dérèglement de son sens moral, elle eût été certainement malheureuse. Trop intelligente pour ne pas comprendre qu'elle avait manqué sa vie, trop orgueilleuse pour s'avouer que la faute en était à elle seule, elle eût vécu, dévorée par d'amères rancunes, et se fût aigrie dans de stériles regrets. La leçon qu'il lui avait donnée devait être salutaire. Elle s'était recueillie, retrouvée et reconquise. Et maintenant, elle était mûre pour le bonheur. Hélas, au moment où, l'œuvre de sa régénération accomplie, Claire pouvait voir s'ouvrir devant elle un riant avenir, la destinée contraire allait-elle la plonger dans le désespoir ? Un bruit de pas résonnant sur sa tête dans le silence de la nuit fit tressaillir Philippe. Il écouta. C'était une marche régulière, continue, automatique, celle de la pauvre femme qui souffrait de si cruelles angoisses, séparée seulement de lui par l'épaisseur d'un plancher, mais si éloignée cependant par l'implacable volonté du mari outragé. Dans chaque vibration du parquet froissé par le pied de Claire, Philippe devinait l'agitation horrible de la jeune femme. Il la voyait par la pensée, tournant autour de cette chambre, les yeux secs, les traits crispés, les mains tremblantes, avec cet air égaré qu'il lui connaissait si bien, dans l'affolement de la douleur ou de la colère. Il sentit son cœur se gonfler. Pour la première fois, il se trouva faible devant son amour. Et la gorge serrée, les tempes battantes, il fut pris d'un violent désir d'aller retrouver cette femme qu'il adorait et qui n'était pas à lui. Il se donna à lui-même, comme un enfant, des raisons pour justifier sa résolution. Ne serait-il pas fou de risquer de mourir avant de l'avoir prise dans ses bras, d'avoir plongé ses lèvres dans les tresses parfumées de ses cheveux blonds ? Il n'avait qu'un mot à dire pour qu'elle tombât sur son cœur. Le jour était encore loin. Il pouvait goûter les délices désespérées d'une nuit d'amour, peut-être sans lendemain. À cette ardente pensée, il eut un vertige. Sa chair frissonna. Il fit quelques pas. Et déjà, de sa main, il touchait la porte, quand un retour de sa volonté l'arrêta. Était-ce bien lui qui allait se laisser entraîner à une si basse faiblesse ? Après tant de souffrances endurées, au dernier moment, manquerait-il de courage ? Cette femme qu'il avait domptée, vaincue, s'abaisserait-il jusqu'à aller mendier auprès d'elle quelques heures d'une dégradante volupté? Il était à l'heure qui devait, matériellement et moralement, décider de toute sa vie. S'il survivait, Claire était bien à lui, sans détour pour le présent, sans crainte pour l'avenir. S'il mourait, il restait devant ses yeux, grand, fier et implacable. Beau joueur, il voulut risquer complètement la partie. Tout ou rien. une existence de pur bonheur ou la mort froide et silencieuse. Et résolu, il revint s'asseoir devant son bureau. Sur sa tête, Claire continuait sa fiévreuse promenade. Il entendit ouvrir la porte, traverser le salon et, d'un pas furtif, aller jusqu'à sa chambre. Un sourire passa sur ses lèvres. Il écouta attentivement. Au bout d'un instant, Claire retraversa le salon et retourna chez elle. Ainsi, de même que lui, elle avait pensé à un rapprochement et, comme lui, elle s'était arrêtée. Il comprit là combien, en allant à elle, il serait tombé de haut. Il eût cessé d'être l'homme supérieur, dominant tout par sa volonté, pour devenir l'être vulgaire à la merci de ses sens. Une faible clarté annonça le jour, le rappela aux soucis matériels qui devaient occuper ses derniers instants. Il voulut, s'il disparaissait, donner à sa sœur un ferme appui. Il avait pu apprécier les solides qualités du marquis de Beaulieu. Dans ce jeune homme, il avait deviné un esprit grave et un cœur sage. S'il avait répondu par un refus à la demande que Claire lui avait adressée, ce n'avait été que pour rester fidèle à sa tactique conjugale et frapper un coup, plus dur que tous les autres, sur le cœur de la jeune femme. Il sentait à ce moment-là approcher la crise définitive et il s'était promis de réparer promptement le tort qu'il faisait à Octave. Suzanne, d'ailleurs, l'aimait. Et, à la pensée de causer un chagrin à cet enfant qui avait été la douceur de sa vie, son cœur se fondait. Il résolut de marier les deux jeunes gens et, pour donner plus de solennité à son consentement, il lui prêta la forme testamentaire. Tranquille et recueilli, il prit ses dispositions, fit deux parts de sa fortune, l'une pour Suzanne, l'autre pour Claire, priant sa chère femme de bien vouloir l'accepter, en souvenir de la profonde tendresse qu'il lui avait vouée. Il choisit, parmi ses ingénieurs, un directeur probe et capable pour occuper sa place. Et, ayant pourvu à tout, il songea à dormir quelques instants. Il lui fallait avoir la main ferme et le coup d'œil sûr. Il s'étendit sur le large divan de cuir et, poussant un soupir, il ferma les yeux. Au château de la Varenne, l'émotion était grande. Athénaïs était revenue de Pont-Aven dans un état de rage inexprimable. Au moment où celle qu'elle haïssait semblait être définitivement abattue et à sa merci, un coup de vigueur la remettait debout, hautaine et triomphante. Et c'était elle, la duchesse de Bligny, qui se voyait humiliée, chassée, vaincue. Car elle ne pouvait se dissimuler que cette rupture éclatante allait lui faire un tort irréparable. Toute la famille du duc prenait parti pour Claire. Les motifs de la rencontre seraient connus et son expulsion honteuse serait racontée, commentée, grossie par un monde qui la détestait. À cette pensée, Athénaïs grinça des dents et des désirs de carnage lui bouleversèrent le cœur. Elle eût voulu être à la place du duc pour que la besogne sanglante fût mieux et plus sûrement faite. Elle rêva Claire veuve. Elle la vit en noir, pâle, éplorée, maudissant l'heure où elle avait outragé sa rivale. Elle pensa qu'en la frappant dans l'époux qu'elle aimait, elle allait l'atteindre à la source même de sa vie. Elle éclata d'un rire affreux, lança violemment ses gants et son éventail sur la table du salon, dans lequel elle venait d'entrer, et se tournant vers son père et son mari, qui la regardaient silencieux. « Cet homme qui défend celle qui m'a insultée, dit-elle avec rage, il faut qu'on me le tue !» Il y eut un instant de stupeur. Moulinet, atterré par la tragique exclamation de sa fille, le duc étonné de trouver dans Athénaïs une intensité de haine égale à la sienne. Il en voulait cependant à la duchesse d'avoir amené par un éclat qui s'était terminé pour elle et pour lui par une retraite humiliante. Il la blâmait de n'avoir pas su se contenir. Habituée aux perfidies, enveloppée de bonne grâce, et aux haines, cachées sous des sourires de son monde aristocratique, il trouva Athénaïs horriblement commune et maladroite. En fin de compte, l'attitude à la Borgia, prise par la jeune femme, l'agaça. Il la regarda tranquillement et d'un ton léger. « Tuez cet homme ? Vous en parlez à votre aise, ma chère. Ces phrases-là font très bien dans un mélodrame. Dans la vie ordinaire, elles sont parfaitement ridicules. Déshabituez-vous donc des grands mots et des grands bras. » Puis, avec un froid sourire, « Au surplus, tenez pour certain que je ferai tout mon possible pour que vous ayez satisfaction. »« Permettez, monsieur le duc, dit alors Moulinet, sortant d'une laborieuse méditation. « Je vous vois disposé à pousser les choses à outrance. »« N'avez-vous pas entendu votre fille, cher monsieur ?» dit Bligny froidement. « Me croyez-vous assez peu attaché à mes devoirs pour ne pas défendre ma femme ?»« Il ne s'agit pas de cela, » reprit Moulinet. « Vous avez, je dois le reconnaître, agi avec une correction parfaite. Mais ma fille est une folle de vous exciter à la violence. C'est à la conciliation qu'elle devrait vous exhorter. Tout peut encore s'arranger. Désaccord passager entre deux amis, querelle légère entre deux cousines. On s'embrassera et ce sera fini. Mais un duel, un scandale, une rupture, vous n'en mesurez donc pas les conséquences? Pour vous, elles seront énormes. Et pour moi, elles sont désastreuses. Vous tuez ma candidature. » Malgré la gravité de la situation, le duc ne put s'empêcher de rire. Athénaïs, enfoncée dans un fauteuil, repliée sur elle-même comme une vipère, fit entendre un sifflement dédaigneux. « Pardon, monsieur le duc, » reprit Moulinet avec autorité, « j'ai assez fait pour vous, je crois, pour pouvoir à mon tour formuler quelques exigences. Il faut que cette déplorable affaire s'arrange. Tous les jours, il s'en produit de semblables qui aboutissent à une pacification. C'est facile. On rédigera un petit procès-verbal par lequel Madame d'Herblay sera déclarée retirer tout ce qu'elle a dit. Ma fille retirera ce qu'elle a répondu. Vous, mon gendre, vous retirerez votre provocation et chacun retirant quelque chose, il ne restera plus qu'à nous retirer nous-mêmes, dit le duc. C'est ce qui se fait couramment. Pas quand il s'agit de gens tels que Monsieur d'Herblay et moi. Croyez-moi, Monsieur Moulinet, imposez silence à votre excellent cœur. Étouffez les plaintes du candidat à l'armée et laissez aller les choses telles qu'elles sont réglées. Je vous souhaite le bonsoir. J'ai à causer avec la Brède avant de me coucher. » Et, saluant sa femme et son beau-père avec tranquillité, le duc sortit. Moulinet fit quelques pas vers Athénaïs. « Voyons, ma chère enfant » balbutia-t-il. La duchesse, sans même le regarder, froide et pâle, se leva, et, poussant d'une main irritée la porte de sa chambre, elle disparut. Moulinet hocha mélancoliquement la tête, et pour la première fois, il s'avoua à lui-même qu'il existait des difficultés qu'on ne surmontait pas avec de l'argent. « La nuit porte conseil, » dit-il. « Demain, il fera jour, nous y verrons plus clair. » Et, se rattachant à une vague espérance, il alla s'étendre dans le lit de l'empereur Charles Quint. Il y avait environ 2 heures que le maître de forge dormait du plus calme sommeil quand une légère pression sur l'épaule le réveilla. Il ouvrit les yeux et, voyant debout devant lui le marquis de Beaulieu, il se remit vivement sur ses pieds. Il faisait grand jour. La pendule marquait 6h30. « Nous avons le temps, » murmura Philippe. Jamais il ne s'était senti plus libre d'esprit et plus vigoureux de corps. Il en éprouva quelque orgueil. Chez cet être de volonté, tout ce qui était une constatation de sa force morale lui causait une secrète jouissance. Il alla à la fenêtre et l'ouvrit. Un air pur et vif, chargé du parfum des fleurs humides de rosée, l'enveloppa délicieusement. Il laissa errer ses yeux sur les masses profondes du parc. Une brume légère, transparente et bleue, flottait au-dessus des arbres comme un voile. Et le soleil, déjà haut dans le ciel, faisait étinceler la surface calme de la pièce d'eau. La nature s'était parée comme pour lui faire fête. « Belle journée !» s'écria gaiement Philippe, de même que s'il eût été sur le point de partir pour la chasse. Son regard croisa celui du marquis, et dans ses yeux attristés, il eut un muet reproche. Le maître de forge vint à son beau-frère et lui serrant affectueusement la main. « Ne vous étonnez pas, dit-il, de me trouver ce matin insouciant et presque joyeux. J'ai le pressentiment que tout finira bien pour moi. » Il devint grave. « Cependant, comme il faut prévoir le malheur, j'ai pris des dispositions. Vous les trouverez consignées dans cette lettre. » Il montra sur son bureau une enveloppe sur laquelle était écrit le nom de maître Bachelin. « Mon vieil ami et vous serez mes exécuteurs testamentaires. Je vous ai légué, mon cher Octave, ce que j'ai de plus cher. » Un rayon de joie illumina le visage du marquis. Le jeune homme voulut parler. Sa voix s'étrangla dans sa gorge et saisissant Philippe dans ses bras, il se mit à pleurer sur son épaule. « Allons, Octave, un peu plus de fermeté, » reprit Philippe. « J'espère que ce sera de ma main que vous recevrez ma sœur. Mais si je n'étais plus là, mon ami, quand vous l'épouserez, aimez-la bien, elle le mérite. C'est un cœur tendre que le moindre chagrin briserait. » Sa voix était devenue d'une douceur infinie en parlant de cet enfant pour laquelle il avait été un véritable père. Il passa sa main sur son front et, devenant calme et souriant, « Il faut que je m'habille. Voulez-vous monter avec moi? Vous me tiendrez compagnie. Et puis, nous irons retrouver le baron. Je désirerais m'éloigner sans attirer l'attention. » Octave baissa le front sans répondre, puis, au bout d'un instant, faisant un effort, « Philippe, avant de vous voir ce matin, dit-il, j'ai vu ma sœur. Promettez-moi que vous ne partirez pas sans entrer chez elle. » Philippe lança au marquis un regard interrogateur. Il est inadmissible, reprit Octave, que vous la quittiez sans lui donner l'occasion de se justifier à vos yeux, si cela est possible. Et comme le maître de forge faisait un brusque mouvement de surprise, « Depuis 3 jours, je sais ce qui s'est passé entre Claire et vous, » dit gravement le marquis. « Elle m'a tout avoué. Je sais combien ma sœur a été coupable, Philippe, et je vous plains, croyez-moi, d'avoir enduré de si cuisants chagrins autant que je vous admire d'avoir su les cacher. Mais je vous en prie, soyez indulgent, soyez bon. Cela sera digne de vous de ne pas accabler cette pauvre femme désespérée. Vous êtes un homme énergique et brave. On a le droit de tout vous dire. Songez qu'elle peut ne plus vous revoir. Ne la laissez pas écraser sous le double remords d'avoir désolé votre vie et peut-être de vous avoir conduit à la mort. » Le maître de forge détourna son visage en pâlissant. Il fit quelques pas, puis revenant à Octave, « Je ferai ce que vous me demandez, dit-il, mais cette entrevue va être horriblement pénible pour votre sœur et pour moi. Faites en sorte de l'abréger et facilitez-moi le départ en venant me chercher auprès d'elle. » Le marquis fit un signe d'acquiescement. Et, serrant tendrement la main de Philippe, il s'éloigna avec lui.